Bonjour et installez-vous. C'est Cyberculture en direct de Fantasmagoria.
J'espère que vous apprécierez.
Ce jeu vous embarque dans une aventure fantastique qui vous scotche devant votre écran pendant des heures. Et pour une fois, le héros, c'est une héroïne, Adrienne. Et c'est l'un des charmes de Fantasmagoria.
Merci.
C'est normal, c'est aussi une femme, Roberta Williams, qui l'a réalisé. Pionnière des jeux vidéo il y a 17 ans, c'est maintenant une grande star aux nombreux best-sellers.
Puis-je avoir un neveu grave?
Tout le monde dit que la cyberculture a toujours eu un problème avec les femmes. Et aujourd'hui, pour en finir avec les vieux clichés, on ouvre le dossier. Macho, les nouvelles techno? À quoi jouent les femmes? Une anthologie des pin-up numériques. Internet plaît aux femmes. Pourquoi? Des jeux vidéo politiquement corrects? La surprise, les nouvelles du front. L'histoire du jeu est très simple. On est Adrienne et on est écrivain.
Oh, j'ai adoré votre livre, La Lune Bleue.
On vient d'emménager dans une immense maison avec Don, notre mari photographe, qu'on aime et qui nous aime.
Je serai toujours là pour te protéger.
Ça commence comme dans tous les films d'horreur. Sauf que là, ça va vous arriver à vous.
Si vous ne me croyez pas, vérifiez vous-même.
Au début, tout est tranquille, calme et harmonieux.
Bonjour chérie.
C'est le matin, elle prend son petit déjeuner, on s'embrasse et Don s'en va bricoler dans la salle de bain. Adrienne se retrouve seule pour explorer les lieux. Pièce après pièce, étage après étage, l'angoisse monte progressivement. Et c'est dans l'une des nombreuses chambres que se manifeste pour la première fois un effrayant phénomène surnaturel.
Don! Don!
Chérie, tout va bien? Regarde, tout va bien.
Non, tout ne va pas bien. Certains pensent encore que la micro, les jeux, c'est une affaire de mec. Alors, c'est vrai que la cyberculture s'adresse uniquement à une moitié de l'humanité?
Depuis que ça existe, l'informatique est une affaire d'hommes. Bill Gates, Steve Jobs, un ancien d'Apple, inventeur du Macintosh, Jim Clark, patron de Netscape, Nolan Bushnell, créateur de Pong, le premier jeu vidéo, Miyamoto, papa de Super Mario, ou encore Bruno Bonnell, patron d'Infogram, tous des hommes, des vrais. Dans les repères de passionnés, comme la salle Sega, les femmes sont rares. Sauf bien sûr John et Michel, souvent choisis par les hommes pour jouer à Tekken. Les femmes représentent moins de 10% des lecteurs de la presse spécialisée micro et jeux, et il est certainement plus facile d'en croiser une au rayon bricolage de Castorama que chez Surcouf, un magasin gigantesque qui vous vend votre ordinateur en kit. Mais des millions de femmes utilisent l'informatique au quotidien, dans les bureaux bien sûr. Pour autant, rares sont celles qui se passionnent pour les détails techniques qui font la différence entre une carte mère Pentium et 486. C'est exactement comme dans le rock. La plupart des grands groupes sont composés d'hommes. Le public est mixte, mais il n'y a que les mecs pour remarquer que John Lennon utilisait plus souvent une guitare Rickenbacker qu'une Gibson ou une Gretsch. Issus des rêves des jeunes mecs des années 60 qui lisaient de la science-fiction et se passionnaient pour les conquêtes spatiales, la cyberculture est souvent perçue par les femmes comme un univers hostile. C'est un cercle vicieux. Regardez les magasins spécialisés. Les vendeurs sont tous des hommes, ce qui génère une clientèle d'hommes et des produits pensés pour eux. Du coup, l'ordinateur familial est d'abord l'ordinateur du papa, qui en justifie facilement l'achat parce qu'il en a besoin pour son travail. Ou parce que c'est bien pour les enfants. Les hommes adorent le bricolage et ça tombe bien, parce que jusqu'à présent, configurer un micro, c'est des heures de bidouille qui remettent toujours au lendemain le moment promis où la maman sera enfin initiée. Le seul qui participe éventuellement, c'est le fiston. Rien de tel pour renouer le dialogue père-fils qu'une bonne partie de F1 Grand Prix. Les hommes trouvent ainsi un bon prétexte pour fuir leur vie de couple et les femmes finissent par identifier la machine à une rivale. L'espoir vient de la bureautique. Les millions de femmes qui utilisent les outils comme Word ou Excel ont poussé les fabricants à favoriser la simplicité d'utilisation. Les interfaces, qui s'installent presque toutes seules, font disparaître les prétextes des bidouilleurs machos. Interdites de fer à souder pendant des années, les femmes s'intéressent maintenant de plus en plus à la micro. Elles se font même draguer par la pub. En fait, Elles ont attendu qu'on les séduise.
Retour dans le suspense de Fantasmagoria. Curieuse et courageuse, Adrienne continue sa visite. Au début, on est bluffé par les décors de la maison. Et ensuite, on s'aperçoit que notre univers ne se limite pas à cette étrange demeure.
Le type qui l'a construite devait être vraiment bizarre.
Bizarre, mais pour en savoir plus, on peut sortir, prendre la voiture et aller discuter avec les gens du village.
Vous savez, c'est une petite ville, je vois peu de visiteurs.
Oui, bien sûr, mais Adrienne est une héroïne très attachante, avec ses émotions, ses hésitations et ses peurs.
Mon Dieu!
Roberta Williams, l'auteur de Fantasmagoria, est l'une des rares femmes qui fait des jeux.
Vous êtes nouvelle ici?
Non, elle en a déjà réalisé une quinzaine. Mais elle se posait encore une question. Peut-on provoquer une véritable frayeur par le biais d'un ordinateur?
Allez, je vais essayer.
Les femmes qui jouent aux jeux d'aventure, c'est plutôt rare. Mais au bureau, les jeux vidéo, c'est plus rigolo que travailler. Avec les heures passées devant des mineurs, Tetris, Solitaire et Shanghai, les femmes sont peut-être les plus grandes joueuses du monde.
Depuis que les jeux vidéo ont envahi les micros, qui eux-mêmes ont envahi les bureaux, les femmes ont appris à cliquer sur autre chose que des traitements de texte ou des tableurs.
Beaucoup des mineurs.
J'ai deux jeux sur mon ordinateur que j'aime bien.
Moi, j'ai découvert le Taipei.
Jeu de domino. Shanghai. Je joue quand j'ai du temps à perdre.
Je fume ma cigarette, je bois mon café, et puis je me fais des petits jeux.
On repart sur autre chose après, avec les idées claires et fraîches.
Mais est-ce réellement bien vu de jouer sur son lieu de travail?
Je culpabilise pas du tout d'y jouer, quoi. C'est-à-dire que je sais que je me sens responsable de mon travail, donc je sais que si je le fais, c'est que je peux le faire, et puis que j'ai rien d'autre très urgent à faire à côté.
Je vois qu'on joue dans les deux bureaux à côté, mais je savais pas qu'à l'autre bout on jouait aussi, quoi.
C'est surtout les femmes, j'ai remarqué, qui jouaient ça. Bah, peut-être dans les bureaux que j'ai fréquentés. Tu jouais ça, montre-moi, voilà, bon. En général, elles sont un petit peu prises de court, elles disent oui, je devrais pas être en train de faire ça, mais enfin bon, j'ai un petit creux, alors je m'y mets.
C'est vrai que c'est quelque chose de prenant et je peux pas y jouer plus d'un quart d'heure, sinon ça me rend assez dingue, quoi.
Moi, je fais pas de grandes performances parce que le cliquage à la souris m'agace.
Si certaines affirment ne pas être accro à leurs petits jeux, d'autres, en revanche, peuvent devenir de vraies championnes. Maryse réalise le score incroyable de 9000 points au solitaire, mais tous les jeux ne les intéressent pas forcément.
Les jeux violents, non, j'aime pas du tout.
Je sens pas le besoin de me défouler devant mon ordinateur et de passer des heures à essayer d'éclater quelqu'un en lui filant des coups de pied, des coups de poing.
On s'en serait douté. Alors, faut-il concevoir des jeux spécifiques pour les femmes? Nous avons posé la question à Thierry Graner, qui vient de terminer une enquête sur ce sujet aux États-Unis.
Les femmes sont davantage intéressées par l'histoire, les personnages et les protagonistes. Elles doivent être attirées émotionnellement par le sujet et le scénario. Les femmes n'ont pas autant de temps, de loisirs que les hommes. Quand elles rentrent chez elles, c'est pour préparer le bain de leurs enfants, faire le repas et les coucher, pendant que leur mari joue au Fly Simulator. Donc, où les femmes jouent-elles, ou ont-elles le temps de jouer? Eh bien, c'est au travail. Elles jouent avec des jeux où il faut simplement cliquer très vite, comme ceux installés dans Windows, où il faut jouer très rapidement. C'est quelque chose qui ne donne pas d'émotion particulière, et c'est aussi un jeu que l'on peut arrêter facilement. Dans ce cas, elles ne désirent pas de dimension émotionnelle, car elles ne se sentent pas du tout impliquées dans le jeu. L'autre chose, c'est que l'on joue contre soi. Ce ne sont pas du tout des jeux de confrontation. La seule personne à battre, c'est soi-même.
Bonjour, je suis Roberta Williams.
Roberta Williams est peut-être l'exception à la règle. C'est pourtant en restant chez elle à s'occuper de ses enfants qu'elle a commencé il y a 15 ans à jouer avec l'Apple II de son mari, acheté pour Noël.
Quand j'ai fini ce jeu, je voulais continuer à jouer, mais il n'y avait pas de jeu comme celui-là sur le marché. J'ai alors réalisé que j'étais très intéressée par ce type de jeu. Alors je me suis dit que j'étais capable d'en concevoir un moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé à imaginer mon propre jeu.
Résultat, sa société Sierra Online est l'un des plus grands éditeurs. Roberta Williams prouve que dans ce domaine non plus, les femmes ne sont pas hors jeu.
Merci. Et bientôt,
on retrouve Cyberculture juste après la pub. Retour dans Cyberculture en direct de Fantasmagoria. Attention, vous allez faire une terrible erreur.
Je suis très curieuse.
D'un simple clic, vous dégagez un passage vers la chapelle secrète. Et là, vous découvrez un mystérieux coffret.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça y est, la force du mal est libérée et se précipite sur Don pour l'envoûter. Habité par le démon, il devient un véritable macho, coléreux et agressif.
Mon Dieu, tu m'as fait peur!
Je croyais t'avoir dit de ne pas fréquenter ces gens-là.
Cette tendance macho, les joueurs masculins aiment bien la retrouver dans les jeux où la femme est souvent représentée en créature sexy.
Laisse-moi tranquille.
Décolleté plongeant et pagne suggestif pour Chirandi ou sage tenue d'écolière cachant une tunique à la garçonne pour Athéna, les guerrières des jeux de combat japonais sont souvent bien pourvues par la nature. Tenue moins provocante pour Pai et Sarah, l'une en kimono de satin bleu, l'autre arborant un ensemble stretch noir et body ton sur ton. Michel ou Michel, choisissez votre style. L'une en short en jean et veste de peau s'entr'ouvrant sur un body affriolant, l'autre en ensemble sport pantalon blanc et t-shirt gris. Toutes ne s'habillent pas chez les grands couturiers, Kitana et Milena choisissent plutôt les hypermarchés. Ce manque d'élégance se retrouve dans leurs coups enfantins. La blonde Camille, couette au vent, gantée, bottée, toquée, est vêtue d'un body ajusté, ne parvenant à cacher ni ses formes féminines, ni ses muscles de déménageur. Le décolleté de la blonde héroïne d'Entity plonge sur une gorge généreuse. String et cuissarde de cuir noir révèlent plus qu'ils ne cachent les avantages de la belle. La tenue de guerrière de Golden Axe 3 à l'hivêtement minimum, soutien-gorge et pagne, a quelques protections, genouillères et poignées de force. Tenue très légère aussi pour El Viento avec pagne et brassière ajustées et bottines souples ne gênant nullement les mouvements. Accessoire original, de longs rubans dans ses cheveux. La rousse Alicia mise elle aussi sur un ensemble minimum, pagne et body, sans oublier l'indispensable serre-tête. L'urgence de sa tâche n'empêche nullement Zantia de penser à son élégance et à son confort vestimentaire.
Much better.
Même les reines d'échecs peuvent faire preuve d'un érotisme puissant. En robe d'apparat moulante et décolleté profond, les reines avancent d'un pas lent au déhanchement provocateur. Entre Gami, prête à dégrafer son soutien-gorge, et Char, uniquement vêtu debout, on comprend que le pauvre Larry ne sache plus où donner de la tête. Et pour finir en beauté, Tia Carrère.
Génial, ça marche.
Dans Fantasmagoria, les femmes ne sont pas toujours aussi sexy.
Oh, mince.
On rencontre tout de même une bonne vingtaine de personnages filmés en vidéo sur fond bleu et réincrustés dans des décors de synthèse.
Vous croyez aux fantômes?
Il y a aussi un chien et un chat.
Je suis Cyrus.
De Cyrus, le grand Bennet, au vieux Malcolm qui a tout vu.
Le diable, il est là.
Chacun nous délivre des informations précieuses qui nous aident à progresser dans le jeu.
Le dragon montrera le chemin.
Élément par élément.
Aou!
Adrienne reconstitue l'histoire tourmentée du manoir. Cette maison appartenait à Zoltan, un magicien du 19e siècle, une sorte de barbe bleue qui a fait disparaître toutes ses femmes. Il n'y a rien à faire, les jeux c'est vraiment macho, même s'il y a des femmes qui en font et qui jouent. Et pour Internet, c'est la même chose?
Fous-moi la paix.
Jusqu'à l'apparition du World Wide Web, en 89, le réseau Internet était essentiellement utilisé par les hommes, des militaires et des informaticiens. C'était un monde de mecs, un vrai western électronique. Les dernières statistiques d'Aurélie et Associés montrent que la population d'Internet évolue. Aujourd'hui aux États-Unis, un tiers des utilisateurs d'Internet et des services online sont des femmes. Dans l'éducation, le nombre de femmes utilisatrices d'Internet dépasse celui des hommes. En France, évidemment, les proportions ne sont pas les mêmes, mais les filles sont déjà là.
En France, il y a entre 5 et 6% de filles selon les études qui ont été faites. Rien ne peut être affirmé exactement, mais c'est vraiment dérisoire par rapport aux États-Unis. Je pense que beaucoup de filles l'ont inversé. Moi, j'ai l'habitude de fréquenter un site qui s'appelle Français. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de filles. Ou beaucoup de garçons qui se font passer pour des filles, c'est difficile à dire encore. Mais il y a de plus en plus de newsgroups féministes, de sites de shopping aussi. Puis après, je pense pas qu'il y ait des sites spécialement dédiés aux femmes. Les femmes peuvent se connecter sur n'importe quel site. Beaucoup de femmes qui sont féministes ou qui se battent pour ça découvrent, comme toutes les minorités, dans Internet un moyen de s'exprimer.
Internet est le premier média de masse sans discrimination, car personne ne le contrôle, et surtout pas les hommes. Mais les femmes n'utilisent pas le net que pour surfer. En y créant des serveurs, des webzines, des galeries d'art virtuelles ou des espaces de discussion, elles participent activement à son expansion. Elles parviennent ainsi à créer un véritable réseau dans le réseau.
Tu remarqueras qu'il y a de plus en plus de web faits par des femmes. Ne serait-ce que ça, il y a vraiment de plus en plus de femmes qui font de l'HTML, qui créent des webs, qui ont leur propre site. Et forcément, ça va influer sur le contenu de ce qu'on va trouver sur Internet ou dans les news. Parce qu'à partir du moment où elles comprennent que c'est un moyen de communication et un moyen de se faire entendre, elles sont là, quoi, tôt ou tard.
Les femmes découvrent avec Internet un moyen efficace de communiquer, de s'entraider et d'aider les autres. Car Internet, c'est aussi un moyen de trouver une solution rapide à tous vos problèmes. Par exemple, Howard Rengold, qui depuis est devenu un expert du cyberspace, ne savait pas comment enlever une tique de la douce chevelure de sa petite fille. Impossible de joindre un pédiatre par téléphone. Il pose alors sa question sur Internet et un certain docteur dit Flash Gordon intervient pour lui donner la solution et sauver ainsi l'enfant. Derrière Flash Gordon se cachait un vrai médecin et derrière chaque ordinateur branché sur le réseau, il y a un homme ou une femme.
Fantasmagoria, c'est gore. Il y a du suspense et du sang.
Tu viens te joindre à ma petite fête ?
D'accord, mais attention, si vous avez moins de 13 ans, ce jeu est interdit en Amérique. Il est conseillé pour les plus de 17 ans par l'éditeur. Ça n'empêche pas d'être parmi les meilleures ventes.
Je vous remercie.
Toujours aux États-Unis, une grande chaîne de magasins a refusé de le distribuer, malgré le mode censure que l'auteur a intégré dans les options.
Alors, comme ça, on est trop sensible?
En fait, c'est juste une mosaïque qui masque les passages les plus sanguinolents, vraiment pour les âmes sensibles et pour rassurer les parents. Alors, jusqu'où peut-on aller et qui décide du contenu des jeux?
Chaque média est plus ou moins contrôlé. Du plus extrême comme le cinéma, avec le système des visas, jusqu'au livre qui n'est soumis à aucune vérification. Les jeux vidéo, d'un point de vue juridique, sont plus proches du livre. La liberté est totale. Aucune commission gouvernementale ni administration compétente ne les contrôle. Sous une apparente liberté, ce sont en fait trois sociétés japonaises qui orientent le contenu des jeux sur console du monde entier. En effet, Sega, Sony et Nintendo vérifient image par image chaque jeu fourni par l'éditeur. Pas de sexe, pas de noir, à part les sportifs, pas de signes religieux. Les jeux sur micro, eux, ne subissent aucune pression. En revanche, quand un éditeur devient important, il limite sa propre création pour être référencé dans les magasins de jouets. La censure est purement économique. A contrario, un tout petit secteur résiste au contrôle. C'est celui des jeux en shareware, comme le premier Doom. Le shareware est un système de distribution des logiciels sans intermédiaire. On achète le jeu directement à l'auteur par le biais d'un serveur ou d'un magazine, d'où une liberté totale de création. Malgré cette apparente liberté, en 1993, Night Trap a été interdit dans un état américain à cause de sa violence. De ce fait, aux États-Unis et sous la pression des ligues de moralité, le syndicat des éditeurs de jeux, le SPA, a dû réfléchir à un système d'autocensure. Johnny Wilson, qui fait autorité en matière de jeux vidéo aux États-Unis, nous explique pourquoi.
La loi sur le classement des jeux vidéo proposée en 1994 par le sénateur Lieberman indique que si l'industrie des jeux n'est pas capable de proposer un système de classement, alors le gouvernement s'en chargera. Ainsi, cette autocensure permet d'indiquer clairement sur chaque boîte de jeu le niveau de violence et de sexe, les abus de langage et les pratiques choquantes.
En Angleterre, le ELSPA a mis en place un système de classification, mais cette fois-ci par âge. Par contre, si le jeu doit être interdit au moins de 18 ans, il est examiné dans le cadre de la loi par une administration compétente. En Allemagne, le système est beaucoup plus dur. Et en France, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui regroupe les principaux éditeurs de jeux du marché français, a lui aussi réagi.
On va lancer un système de classification qui débouche sur des recommandations sur les titres mis sur le marché, les titres interactifs bien sûr. Il s'agit donc d'un système dans lequel l'éditeur établit la tranche de classification, la catégorie de classification à laquelle doit appartenir son jeu, à partir de 12 ans, à partir de 16 ans, pour adultes avec scènes pornographiques, et enfin les titres qui mettant en jeu les valeurs universelles, éventuellement recommandant des attitudes racistes, seraient hors classification celle. Bon. Tout ça a été fait en France d'une manière spécifique à la France, parce que ça n'était pas possible de transposer quelque chose de l'étranger en France. Notre mentalité est différente. Et on va mettre tout ce système en œuvre à partir de 1996.
À l'heure actuelle, chaque pays important possède son système d'autocensure destiné à protéger les jeunes avec les effets pervers que cela entraîne.
C'est vrai que les jeux se vendent mieux quand les gens se rendent compte qu'il y a des scènes violentes. Mais j'ai bien peur que beaucoup d'éditeurs arrêtent d'explorer les sujets à caractère sexuel, violent, historique ou politique, par peur d'être déclassé. Les sujets vont donc s'appauvrir, les jeux s'adresseront de moins en moins aux adultes et par conséquent seront uniquement destinés aux enfants.
Et surtout, comme cette autocensure des éditeurs est d'abord dirigée contre la violence, l'équilibre entre les hommes et les femmes à l'intérieur même des jeux n'est absolument pas garanti.
En plein cauchemar, Adrienne se sent seule. Sa maison est bourrée de fantômes et son mari devient fou. Possédé par le démon, il va tuer un par un tous les personnages du jeu.
Je peux pas croire que Don ait pu faire ça.
Et maintenant, il s'en prend à sa femme. Adrienne doit ruser et se défendre pour sauver sa peau. Va-t-elle s'en sortir? En attendant, les news de la presse féminine et les dernières nouvelles du front.
Massive Air News, c'est la sortie au début du mois de décembre d'un CD-ROM pompeusement intitulé « Tout sur le plaisir des femmes », destiné donc à des hommes pour qu'ils apprennent à nous faire grimper au 7e ciel en cliquant sur leur souris. Alors nous, on jette dessus, on débourse quand même 349 francs et finalement, on s'aperçoit qu'il s'agit juste d'une interview X de nana correspondant à des stéréotypes et des fantasmes masculins, la Lolita, la SM, l'échangiste, la rockeuse. C'est pourtant un titre qui a une vocation grand public puisqu'il l'éditeur veut le distribuer dans les Virgin, dans les Fnac, etc. Mais tout compte fait, c'est juste un CD-ROM de charme mais qui n'en a aucun.
Alors la nouvelle de elle, c'est la montée du titre sur Internet. Nous avons ouvert un site le 21 novembre, qui était le jour du 50e anniversaire du magazine. Alors avec ce site, nous espérons d'abord apprendre à un nouveau métier, parce que c'est pas du tout le même travail que de créer un magazine, même hebdomadaire. C'est une autre vitesse, d'autres distances. Et ensuite, nous espérons que nous avons déjà des lectrices qui sont des cybernautes attentives et qui vont retrouver sur le site elles et les rubriques qu'elles aiment. Et puis nous allons avoir des connexions certainement du monde entier, puisque la marque elle est connue dans beaucoup de pays avec les 26 éditions internationales du titre.
Eh bien, il y en a une, c'est Dave Warner. Dave Warner, c'est un neurochirurgien américain qui s'est branché sur les enfants paraplégiques. Les enfants paraplégiques, c'est des enfants qui n'ont jamais rien pu faire de toute leur vie sans l'assistance de leurs parents ou d'une infirmière. Et là, pour la première fois, grâce à des petits capteurs et un ordinateur, ils arrivent à se déplacer dans un univers virtuel, à travailler, à apprendre, à jouer. Et il n'y a qu'à les voir quand ils rentrent dans la salle. Ils étaient à la fois terrorisé et blasé comme un nouveau traitement de plus, encore. Et ils se retrouvent devant l'ordinateur, et là l'ordinateur leur demande « Vous voulez quitter ou vous voulez continuer ?» Et ils cliquent tous, ça ne rate pas, on continue. Dave Warner a trouvé un vrai filon pour la réalité virtuelle, pour l'appliquer de manière intelligente et utile. Et enfin, il a trouvé les fonds nécessaires pour continuer ses recherches, et même organiser un grand colloque le 17 et le 20 janvier à San Diego, où ça va être un grand rendez-vous de médecins et de spécialistes de la réalité virtuelle. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et c'est cyber.
Alors, Alors la grande surprise, qui va probablement se vendre plus de micro-ordinateurs que de voitures en 95 en France, un phénomène qui s'est déjà produit aux États-Unis en 94 et cette année c'est chez nous. Ce qui est une bonne surprise parce que la France, il faut bien le dire, accuse un certain retard en matière d'équipement. Il y a actuellement 11% des foyers français qui disposent d'un micro-ordinateur chez eux, 11% contre 35% aux États-Unis, 20% en Grande-Bretagne, en Allemagne et plus de 20% en Espagne également. Alors ces micro-ordinateurs, évidemment, ils sont accompagnés souvent d'un lecteur de CD-ROM, ce qui fait qu'on assiste à une véritable explosion du parc installé de lecteurs de CD-ROM en France. Il est passé en 6 mois de 400 000 à peu près à 800 000, dont la moitié sont des lecteurs de CD-ROM installés dans les foyers. L'autre grande surprise, c'est le rôle des femmes dans tout ça. Une idée reçue consistait à dire que les femmes étaient largement tenues à l'écart de ces mouvements technologiques. Or, pas du tout. Parmi les foyers qui sont en passe de s'équiper, on se rend compte que très souvent, c'est la femme qui émet le souhait véritable de faire passer sa famille dans cette nouvelle ère du multimédia.
Vous avez vu, ce jeu est sans doute le plus flippant, le plus terrifiant, le plus angoissant de tous les jeux d'aventure. Si vous jouez bien, Adrienne s'en sortira vivante. Sinon, enfin, ce qu'il y a de formidable dans les jeux vidéo, c'est qu'on peut toujours recommencer. Et on recommencera avec un nouveau jeu dans le prochain Cyberculture, juste avant Noël, samedi 23 décembre. Que la France...